France Inter, il est 13h. Le journal Frédéric Barrère, bonjour.
Bonjour à tous. Les Jeux de Tokyo sous la menace d'un cluster au village olympique. 3 athlètes testés positifs au coronavirus. 55 cas de contamination liés au JO. De nouvelles manifestations ont lieu au Japon. Karine Nishimura dans un instant. Plus de 10 000 nouveaux cas de contamination en France hier et pour la deuxième journée consécutive. Près de 114 000 personnes dans les manifestations anti-vaccins. Une députée, Martine Vonner, appelle à faire le siège des parlementaires. À l'instant, plusieurs députés demandent le départ de Martine Vonner de leur groupe. Angela Merkel, cet après-midi au cœur de l'Allemagne dévastée par les inondations. Le bilan s'est encore alourdi. 183 morts en Europe de l'Ouest, dont 156 personnes tuées en Allemagne. Dans ce journal également, retour sur la cérémonie de clôture un peu désordonnée du Festival de Cannes. Et le Tour de France, épilogue et place aux sprinters ce soir sur les Champs-Élysées. Le temps pour cet après-midi et pour demain, chaud et ensoleillé. 5 départements restent en vigilance orange au cru, l'Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meuse et la Saône-et-Loire. Jean-Pierre Hameau à la fin de ce journal.
France Inter.
Les opposants aux Jeux Olympiques de Tokyo parlaient de jeux de la pandémie. Ils pourraient bien devenir des jeux maudits. À 5 jours de la cérémonie d'ouverture, les organisateurs sont confrontés à la menace d'un cluster olympique. 3 nouveaux cas de contamination ont été détectés aujourd'hui chez les athlètes. Et des Jeux Olympiques sont déjà sous la menace d'un état d'urgence et à huis clos. Et avec, en plus, la menace d'un foyer de contamination au village olympique. Sur place à Tokyo, Karine Nishimura.
Manifestation anti-JO dans la rue et sur les réseaux sociaux, une large partie de la population japonaise est en colère. Avec un total de 55 cas positifs Covid-19 liés aux JO depuis le début du mois, dont 3 détectés en 2 jours dans le village olympique, les Jeux, vantés comme sûrs, ne sont déjà plus perçus comme tels. Les JO ne seront pas sans Covid, reconnaît Christophe Duby, directeur exécutif.
Je ne pense pas que l'on puisse dire sans Covid. Je crois que nous ne l'avons jamais dit, la sûreté, malgré le Covid, c'est une autre approche.
Pour Hide Nakamura, directeur des opérations, trouver des cas positifs, c'est normal.
C'est justement en testant bien que nous pouvons vite isoler les cas positifs et créer un village olympique sûr.
L'inquiétude face aux infections n'est pas le seul problème qui exaspère la population. Le fait que les officiels des JO se réunissent pour une réception ce dimanche autour de Thomas Barr, le président du Comité international olympique, a entraîné une nouvelle manifestation devant son hôtel. S'ajoutent à cela divers scandales de mœurs qui entachent encore plus l'image de ces JO. Tokyo, Karine Nishimura, France Inter.
En France, l'épidémie galope, les indicateurs ne sont pas bons. 11 000 nouvelles contaminations hier pour la deuxième journée consécutive. Le seuil des 10 000 nouveaux cas a été dépassé. Et contrairement à ce qui a pu être dit dans le passé, l'épidémie ne baisse pas pendant l'été. Philippe Amouyel, épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille, estime que pour briser cette dynamique de l'épidémie, il n'y a qu'une solution, une vaccination massive.
On est sur une progression exponentielle, c'est-à-dire que les chiffres doublent. On est à 10 000 cas de contamination. On va probablement passer à 20 000 dans une dizaine de jours. Maintenant, pour les hospitalisations et les réanimations, il y a toujours un délai d'hospitalisation qui est de l'ordre de 2 semaines et en réanimation de l'ordre de 3 semaines. Donc l'impact ne se fait pas encore sentir, mais il risque de se faire sentir. Et la question est de savoir à quel degré, c'est-à-dire sera-t-on à un degré qui nous mènera à la saturation des hôpitaux et des réanimations, ou est-ce qu'on pourra, grâce à la vaccination notamment, contenir cette hausse.
On observe aussi que ce sont les plus jeunes, moins de 39 ans, qui sont le plus concernés par ces nouvelles contaminations. Avec la vaccination en plus, ça peut permettre de limiter la pression.
Il faut le faire très vite, cette vaccination. Les plus jeunes n'ont été autorisés, entre guillemets, à se faire vacciner qu'à partir du 15 juin. Donc par rapport aux plus de 60, ils ont un retard en termes de vaccination. L'important, c'est d'essayer de le rattraper, mais c'est ce qui permettra justement de freiner cette dynamique de croissance d'ici la fin du mois d'août, si on arrive à, comme on le fait actuellement, massivement vacciner.
Le professeur Philippe Amouyel avec Jules Dequis. Et malgré les alertes lancées par les médecins et la flambée de l'épidémie, près de 114 000 personnes ont manifesté hier pour dénoncer ce qu'il considère comme une dictature sanitaire. Ce matin, une déclaration retient l'attention dans le défilé hier à Paris. La députée du Bas-Rhin, Martine Wonner, ancienne membre de La République En Marche, a exhorté les manifestants à faire le siège des parlementaires et à envahir leur permanence. Bonjour Yael Gauz.
Bonjour Frédéric.
Des propos qui provoquent ce matin encore beaucoup de réactions.
Oui, cette députée alsacienne exclue en mai 2020 de la REM est une récidiviste de la galaxie covido-sceptique. On l'a déjà vu à l'œuvre dans le film complotiste Hold Up, après avoir pris fait et cause pour l'hydroxychloroquine. Psychiatre de profession, c'est toujours avec l'écharpe tricolore qu'elle défend des prescriptions alternatives pourtant contestées par l'ordre des médecins. Nouveau coup d'éclat hier à Paris, bras-dessus avec Francis Lalanne, Florian Philippot ou encore Nicolas Dupont-Aignan.
Ce gouvernement est devenu totalement illégitime. Macron a entraîné la France en état de choc. Et les Français ne peuvent plus continuer à supporter cette maltraitance qu'on leur fait subir. Et en tant que parlementaire, je ne serai pas complice de ce qu'on va devoir nous faire voter la semaine prochaine.
Martine Wonner au micro de Claire Checaglini, une députée qui exaspère les collègues de son propre groupe parlementaire, Liberté et Territoire. Plusieurs d'entre eux exigent son départ. Et si en plus, comme le rapporte Le Parisien, Martine Wonner appelle à la révolte contre ses collègues, ce n'est plus tenable, se fâche le porte-parole des députés En Marche, Pierre-Alexandre Anglade.
Voilà plusieurs jours que les élus de la majorité sont victimes d'intimidations, de pressions, parfois même de menaces de mort par mail ou jusqu'à leur domicile. Et Martine Wonner, qui verse dans le complotisme et qui hier a appelé à envahir les permanences des députés, c'est absolument inacceptable. Le président de notre groupe a écrit à Richard Ferrand pour que des poursuites soient engagées. On ne peut pas tolérer qu'un élu de la République incite à la violence, surtout dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui.
Saisine du procureur au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Martine Wonner, elle estime que ses propos ont été surinterprétés pour lui porter préjudice. Épisode politique de plus qui illustre la tension à la veille du dépôt du nouveau projet de loi en Conseil des ministres. De l'Élysée à la majorité, on assume le bras de fer avec ces antivax, actifs, visibles, mais très minoritaires dans l'opinion.
Yael Gauz, merci. Et à l'étranger, en Tunisie, où le système de santé s'est effondré, la situation sanitaire catastrophique entraîne cet été un énorme choc touristique. Il y a à peine 2 ans, la Tunisie a attiré 10 millions de touristes, mais aujourd'hui le secteur du tourisme est quasiment à l'arrêt. Récemment, la France a classé la Tunisie en zone rouge, impossible de s'y rendre, sauf pour motif impérieux. Les Français étaient jusqu'à présent les premiers clients du tourisme tunisien, Philippe Lefebvre.
Sur la côte où se trouvent toutes les grandes stations balnéaires, à Hammamet, Sousse, Port El Kantaoui, il n'est pas rare de trouver des hôtels fermés ou à moitié vides, faute de clients étrangers ou même tunisiens qui l'année dernière avaient sauvé une partie de la saison dans un pays où le tourisme représente 14% de la richesse nationale. Et face à une situation sanitaire hors de contrôle, c'est peu dire que les professionnels du tourisme ont le moral au plus bas, comme Anis Meghirbi, le directeur commercial du groupe hôtelier tunisien Cybel, qui a dû fermer l'un de ses 3 hôtels.
L'été 2021 sera pire que l'été 2020. Déjà, on est tenu par le respect du protocole sanitaire, donc on ne peut pas dépasser les 50% d'occupation. Puis on a marre de cravacher dur pour avoir ces réservations et tout de suite après, on est en train de les annuler une par une. Nous avons quand même atteint un pic à 40 chambres au jour quand même, ce qui n'est pas rien en ce moment quand même.
Et pour tenter de rassurer les clients, des mesures drastiques ont été prises par les hôteliers, comme un test rapide avant d'entrer dans un restaurant pour déjeuner, mais pas certain que cela soit suffisant. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, 50% des entreprises tunisiennes liées au tourisme seraient à plus ou moins longue échéance menacées de fermeture.
Le bilan des inondations en Allemagne et en Europe s'est encore alourdi. Au total, dans l'ouest de l'Europe, les intempéries ont fait au moins 183 morts et il y a des disparus. En Allemagne, ces inondations qualifiées d'inondations du siècle ont tué 156 personnes. Angela Merkel, la chancelière allemande, se rendra cet après-midi au cœur de cette Allemagne dévastée et notamment dans le village de Schout où on retrouve notre envoyé spécial Thibault Lefebvre. Bonjour Thibault.
Bonjour Frédéric.
Angela Merkel va découvrir un village de 700 habitants totalement dévasté.
Oui, il y a encore quelques jours, la grande baie vitrée du salon de Lucia et Livio et de leurs 2 enfants permettait d'apercevoir derrière le jardin à environ 150 mètres la rivière Ar.
Tout était très beau ici.
Et depuis, l'eau est montée de près de 3 mètres, puis progressivement redescendue, charriant un mélange de boue et de déchets. Le rez-de-chaussée est dévasté et le jardin a tout simplement disparu.
Je n'arrive pas à réfléchir à ce qui s'est passé et à ce qui nous attend, mais nous sommes heureux d'être toujours vivants. Nous avons besoin d'aide.
Et c'est un miracle, il n'y a aucune victime pour le moment à Schult. Alors que des maisons ont été arrachées, les ponts n'ont pas résisté, des rues ont disparu. Et les habitants et des bénévoles tentent d'aménager avec des tracteurs et des pelleteuses des chemins boueux recouverts par endroits de planches en bois. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Et le bas du village est désormais inhabitable. C'est ce chaos que va découvrir cet après-midi la chancelière allemande Angela Merkel.
Nous sommes contents qu'elle vienne et qu'elle voit les choses par elle-même. Nous n'avons pas de questions, mais plutôt une demande. L'assurance ne nous répond pas et nous devons payer les traites à la banque, pour la maison. Nous devons aussi en louer une autre.
Angela Merkel doit arriver en milieu d'après-midi. Le ministre des Finances, Olaf Scholz, a d'ores et déjà promis une aide d'urgence aux sinistrés de 300 millions d'euros.
Thibault Lefèvre avec Laurent Macchetti. Et ces inondations en Allemagne ont pris un tour politique à un peu plus de deux mois des élections législatives. Le favori pour succéder à Angela Merkel, le conservateur Armin Laschet, est pris ce matin dans un tourbillon polémique sur place à Berlin. Nathalie Versieux.
Angela Merkel se rend aujourd'hui dans la région sinistrée, mais pour l'heure, c'est la bourde de son successeur potentiel Armin Laschet qui retient l'attention. Le candidat conservateur à la chancellerie a été surpris par les caméras de télévision en train de rire en arrière-plan pendant l'émouvant discours du président de la République hier. Le faux pas de Laschet, connu pour son caractère volubile, choque d'autant plus en Allemagne qu'il est aussi le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Des images dramatiques pour sa campagne alors que la catastrophe prend une tournure de plus en plus politique à quelques semaines des législatives. Les politiciens se relaient dans la région. Berlin a promis 300 millions d'euros d'aide d'urgence aux sinistrés et un plan inondation doit être adopté la semaine prochaine par le gouvernement. Berlin, Nathalie Versieux pour France Inter.
Le festival de Cannes maintenant est la soirée de clôture un peu désordonnée. On connaissait les accidents de robes sur le tapis rouge lorsque des actrices découvrent par mégarde une partie de leur corps. Hier soir, on assistait à un accident de palme d'or ou de palmarès. Le président du jury, Spike Lee, a dévoilé par erreur la palme d'or dès les premières minutes de la cérémonie. La palme d'or revient à Titane, le film d'horreur de Julia Ducournau. La réalisatrice française est sacrée à 37 ans. Bonjour Alexis de Meyer.
Bonjour.
Vous avez suivi toute la quinzaine, Alexis, avec plusieurs images fortes.
Ah oui, Frédéric, avec en effet cette palme historique remise hier soir à Julia Ducournau devant 1 300 000 téléspectateurs. Jamais une réalisatrice française n'avait remporté la plus haute distinction cannoise. Cette palme pour Titane, dont on écoute la BO, récompense un film coup de poing, mais aussi plus largement le cinéma de genre, pas forcément en odeur de sainteté sur la croisette. Mais rembobinons un peu, Frédéric. Pendant 15 jours, nous avons pu admirer une constellation de stars sur le tapis rouge, d'Adam Driver à Bill Murray, de Valérie Le Mercier à Catherine Deneuve, tout sourire sur les marches pour sa première apparition publique depuis son AVC. Léa Seydoux, en revanche, a brillé par son absence pour cause de contamination au Covid, comme un symbole de ce festival sous bulle sanitaire stricte. Autre absence remarquée, celle du russe Kirill Serebrennikov, l'opposant à Poutine à interdiction de quitter son pays. Mais son nouveau film, particulièrement fiévreux, a parlé pour lui. L'ancien palmé Apichat Pongwera Setakul a lui profité de sa venue à Cannes pour alerter sur la situation en Thaïlande.
Nous souffrons énormément parce que les militaires au pouvoir sont assez autoritaires et prennent en quelque sorte le peuple en otage par leur mauvaise gestion de la pandémie. Je veux que le monde sache à quel point ce que nous vivons actuellement est dur.
La musique d'Annette de Léo Scarrax, le français auréolé hier soir du prix de la mise en scène pour cet opéra rock sur le show business.
Alexis Demeyer en direct de Cannes. Merci Alexis. Le Tour de France et il reste 108 km à Tadej Pogacar avant de gagner une deuxième fois le Tour ce soir sur les Champs-Élysées au terme de la 21e et dernière étape entre Chatou et Paris. Bonjour Nicolas Perronnet.
Bonjour Frédéric.
Vous avez été pendant ces trois semaines l'un de nos envoyés spéciaux sur le Tour de France. Alors pas d'incertitude pour ce qui concerne le maillot jaune. Pogacar a plus de 5 minutes d'avance au classement sur le deuxième Vingegaard. En revanche, l'animation viendra avec le sprint final et Marc Cavendish qui qui peut ce soir battre un record.
Oui, Mark Cavendish, dont le maillot vert de meilleur sprinter n'est pas encore, attention, totalement assuré, hein, même s'il possède une marge plutôt confortable sur Michael Matthews. Alors c'est vrai qu'on a peu vu l'Australien pendant ces trois semaines, mais il s'est illustré sur les sprints intermédiaires et il est toujours dans la course au point. Ce maillot vert pour Mark Cavendish, ce serait son deuxième. Ce n'est pas vraiment sa priorité. Ce que recherche d'abord le coureur de l'île de Man, ce sont les étapes, lever les bras et effectivement ce record, celui d'Eddy Merckx, 34 victoires chacun sur la grande boucle. Franchement, personne n'imaginait le cave puisse ne serait-ce que s'en rapprocher. Lui qui a été appelé par son équipe une semaine avant le départ, après des mois de galère, les contre-performances, la dépression. Mais à 36 ans, voilà, il s'est complètement retrouvé sur ce tour. 4 victoires d'étape et donc la possibilité désormais de dépasser statistiquement la légende absolue du cyclisme. En 13 participations, Mark Cavendish s'est imposé 2 fois sur les Champs-Élysées en 2009 et 2011. C'est une arrivée évidemment qui fait rêver tous les sprinteurs et c'est la meilleure raison de s'intéresser à l'étape du jour.
Et arriver sur les Champs-Élysées à 19h08, c'est très précis, sous le soleil sur Paris. La météo dans un instant.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Jean-Pierre Hameau.
Une carte météo très ensoleillée cet après-midi, parfois parsemée de petits cumulus de beau temps. Ces cumulus seront un peu plus développés entre les Pyrénées et l'Auvergne et du Lyonnais au massif alpin. Des averses sont attendues, mais uniquement sur le relief des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence. Un coup de tonnerre est même possible en toute fin de journée. Mistral et Tramontane vont souffler jusqu'à 70 km par heure dans leur domaine. Côté température, les maximales reprennent des couleurs dans la moitié nord. Prévoyez 27 degrés à Nancy et Dijon, 28 à Lille et Brest, 29 dans la capitale. On va dépasser souvent la barre des 30 degrés dans le sud-ouest, comptez 30 à La Rochelle et Toulouse, 31 à Bordeaux et 32 à Montauban. Il fera chaud autour de la Grande Bleue, avec 33 à Perpignan et Bastia, 34 à Nîmes et Montpellier, et jusqu'à 35 degrés du côté de Marseille. Demain, l'ensoleillement sera une nouvelle fois généreux. Prévoyez de la grisaille le matin vers le Massif central et le Pays basque. Se dissipant en cours de matinée, les températures seront stationnaires.
Jean-Pierre Hameau de Météo France.